Je le crois, sincèrement, que la connaissance fait qu'on va agir intelligemment. Est-ce que c'est possible de bien manger sans se ruiner dans une période où on dit qu'on va être un peu plus serré, qu'on va faire attention? On va serrer dans nos culottes ou serrer dans notre porte-monnaie? On va voir. Elle est docteur en nutrition, Isabelle Huot. Bonjour, comment allez-vous?
Hey, bonjour à vous deux. Ben oui, ça va bien.
On est plusieurs, on est plus que deux, là. Vous
ah
deux,
oui?
C'est
okay.
Pas, j'espère que c'est pas juste moi, là.
C'est gars, il a pris que... Je sais que Louis aussi, puis
oui.
Il y en a d'autres, ben tant mieux.
Ben oui, Nico est là, Catherine est là, on est une gang, on est des fans d'Isabelle.
Ah, écoute, super.
Est-ce
ben
que c'est...
oui, c'est possible de bien manger sans se ruiner, parce que c'est une fausse croyance de penser que bien manger, ça coûte cher. Puis moi, aujourd'hui, j'ai plein d'astuces à vous donner pour que ça coûte encore moins cher.
OK, tout en étant délicieux, savoureux et autres.
Ben oui, oui. Mais juste un exemple comme ça, si on achète une pomme de terre, là, une patate, c'est 10 sous pour 100 grammes. Si elle est transformée en chips, c'est 1$ par 100 grammes. On voit la différence.
Mais on peut s'en... Donc, on pourrait se faire quasiment des frites santé, entre guillemets, là, tu sais, au four.
Ben oui, ça tout à fait. On la taille très fine, cette pomme de terre, on la fait sauter dans l'huile d'olive ou on la met au four avec un petit peu d'huile d'olive, puis ça fait une frite maison super santé.
D'après moi, elle serait meilleure.
Me
trompes-tu qu'elle serait meilleure aussi?
Ben oui, elle serait bien meilleure au goût à faire un petit test. Bon, les trucs, il faut être organisé, planifier son menu. Si on fait l'épicerie tous les jours, ça coûte plus cher parce qu'on est souvent tenté vers des choses qu'on n'a pas besoin.
Ouais.
Donc, juste de planifier ses menus de la semaine. Le dimanche, on fait ses menus, on fait sa liste d'épicerie, puis on s'en tient à sa liste d'épicerie.
On n'est pas capable, Isabelle, qu'est-ce que je te dis? Personne n'est capable de faire ça.
Ben oui.
Ouais, on est capable.
Ça prend juste la motivation. On écrit ce qu'il faut pour nos recettes, puis on n'achète que ça. Puis on va pas faire l'épicerie avec les enfants qui vont regarder exactement la hauteur des yeux des enfants, les aliments qui sont alléchants, qui ont plein d'attractions sur les boîtes de céréales, puis que la boîte de céréales, finalement, elle coûte 6$ au lieu de coûter 4$.
Ben oui. Okay.
Il faut aussi manger avant de faire l'épicerie. On n'arrive pas là, le ventre vide. Encore là, on va être tenté vers des petits amuse-bouches ou des choses qui se grignotent facilement quand on va arriver à la maison. Puis ça, c'est toujours plus cher.
Okay.
On suit, ça, c'est le premier truc, être organisé.
Okay.
Le deuxième truc, ben on utilise les circulaires, mais dans une seule épicerie, à moins qu'il y ait deux épiceries qui soient quand même assez collé parce qu'on s'entend qu'il faut traverser dans une autre ville pour aller au métro ou IGA, mais avec le coût de l'essence, finalement, on n'économise pas, là.
Okay.
Pour économiser 50 sous pour 200 grammes d'asperges ou d'épinards ou de brocolis, ça vaut pas la peine.
Dans le fond, j'admets que ce point-là, là, je suis un peu fautif, parce que si on connaissait, si on prend les circulaires, on va connaître les spéciaux, entre autres, dans la viande, et on va orienter nos recettes de la semaine sur les spéciaux. C'est ça que tu veux dire?
Ah oui, mais ça, c'est vraiment bien. Ben oui, puis surtout la viande, c'est là où ça vaut le plus la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont prendre les spéciaux, bon, IGA, Métro, et puis Provigo, puis là, qui vont faire les trois chaînes pour aller chercher les aliments les moins chers, ça vaut la peine quand ils sont prêts. Quand les supermarchés sont prêts l'un de l'autre, parce que s'il faut parcourir une grande distance pour aller chercher, pour sauver 50 sous, ben on le dépense en essence.
Excuse-moi, Isabelle, juste là-dessus sur le fait de sauver et d'essayer de sauver, je me suis toujours posé la question, puis là, tu me fais penser que j'aimerais te la poser là.
Oui.
Est-ce que les sections d'aliments en vrac puis les affaires congelées, est-ce qu'on sauve nécessairement quand on achète en vrac?
Ah oui? On sauve beaucoup, puis ça, c'était mon sixième truc, acheter en vrac. Juste un exemple, le gruau. Là, on achète des petits sachets de gruau à remettre ça ou pas. Mettons qu'on prend le nature.
Ouais.
Ben, si on prend le nature, c'est trois fois plus cher que si on achète le gruau qui est pas pré-portionné.
OK.
En plus, c'est plus écologique parce que c'est pas du sur-emballage.
Okay.
Hein? Donc, acheter en vrac des gros formats de gruau, on épargne énormément. Puis là, j'ai comparé un format de 1 kilo. Si on prend un format qui est encore plus gros, ça vaut vraiment la peine.
Dans à peu près tous les produits secs, les raisins, la farine, ces affaires-là.
Okay. Oui, la farine, les gros contenants toujours, le sucre, on économise énormément. Puis tout ce qui est pré-emballé, c'est plus cher ou pré-lavé. Hein? Maintenant, il y a comme des haricots verts pré-lavés.
Mais Isabelle, juste là, excuse-moi, juste sur le vrac, parce que je viens d'y penser. Une personne m'avait donné, je me demande si c'est pas une nutritionniste ou une docteure en nutrition à qui j'avais parlé qui m'avait dit ça. On m'avait dit, concernant le vrac, parce que moi, là, des sacs de plastique ouverts dans le garde-manger, je trouvais ça tannant. On a dit, investis, va chez Canadian Tire ou chez Walmart ou peu importe. Oui. Va t'acheter un paquet de récipients en plastique. Puis là, t'es identifié puis c'est réglé pour 20 ans. Là, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, le vrac devient, pratique.
Parce que tu peux... je trouve ça génial comme truc, ça.
Parce que peux accumuler, d'abord, ça prend moins d'espace, et d'autre part, c'est moins tannant, parce que des sacs, tu peux percer facilement. Je comprends que c'est pas convivial.
C'est un petit truc pratico-pratique. C'est bien, ça. Bonne suggestion.
Bon.
Oui, tout à fait. Puis on continue, mais cuisiner davantage à la maison comme mon truc, parce que plus on achète des mets qui sont prêts à manger, ben c'est cher, hein. Fait que peut-être retourner un petit peu au fourneau, et puis trouver des recettes. D'ailleurs, il y a un site de recettes que j'aime beaucoup qui s'appelle soscuisine.com. C'est des recettes qui sont développées à partir des spéciaux de la semaine. Puis on a le prix de revient par portion.
OK. Il est vraiment mis à jour par rapport aux spéciaux en... T'as-tu des doutes, Catherine?
Non, mais en fait, c'est que je suis encore abonnée à SOS Cuisine.
Oui, moi aussi, je suis abonnée, oui.
C'est super le fun parce qu'ils vont même t'écrire ta liste d'épicerie puis ils vont dire où est-ce qu'elle va être la moins chère dans ton coin puis selon les spéciaux de ton Publisac à toi. C'est vraiment extrêmement bien pensé. C'est juste qu'à mon goût, à moi, je trouve que les recettes sont un peu difficiles à faire. C'est pas très, très user-friendly, là. Faut quand même avoir...
Une
certaine habileté en cuisine.
Ah oui?
Moi, je trouve ça, en tout cas.
Oui, OK. Moi, les menus que je reçois, non, je les trouve plutôt fins. Au départ, il faut dire qu'on...
Oui, mais Catherine a des problèmes, là, quand même.
Non, mais peut-être qu'une docteure en nutrition trouve ça plus facile de faire à manger que moi aussi, là. Je sais pas, mais tu sais...
Toi, ça te semble plus complexe.
Ben moi, je trouve un peu plus complexe, mais c'est tellement bien fait, Gilles. J'ai des allergies alimentaires, alors je marque pas de poisson, pas de fruits de mer. Bon. Tout est fait selon mes spécificités à moi. C'est vraiment bien fait.
C'est ça que j'aime. On indique ses préférences. Si on n'aime pas le bœuf, on dit pas de bœuf, puis on va avoir des menus pas de bœuf. Pour les allergies, c'est génial. Est-ce qu'on veut pour une personne, deux personnes ou quatre personnes? En tout cas, c'est vraiment, là, j'en viens pas du travail qui est fait derrière ce site-là d'avoir les spéciaux une semaine avant tout le monde pour être capable d'organiser les menus, en tout cas.
Est-ce qu'on va apprendre un jour que ça appartient à Saint-Hubert, les restaurants?
Non, pas du tout. C'est une journaliste au Journal de Montréal qui est derrière.
Une
journaliste culinaire.
OK.
Ensuite, miser sur des aliments dans l'autre truc pour sans se ruiner, des aliments qui sont sains mais qui coûtent pas cher, comme les légumineuses, là, on en mange tellement pas, mais des pois chiches, des lentilles, ça coûte 1$ pour une boîte de 540 ml. Ça, là, ça te fait une soupe repas, c'est des protéines qui sont vraiment, vraiment économiques, ça vaut la peine de les découvrir, ça fait des super salades aussi. La pomme de terre, on en a parlé, c'est pas cher, la pomme de terre. En ce moment,
est-ce que c'est bon pour la santé? Ouais, c'est bon, les pommes de terre, la santé. Il y a tellement de choses qui sont, le problème, c'est les frites qui sont au banc des accusés, là. C'est ça?
Oui, ben oui, exactement. La pomme de terre, là, on l'a vraiment maltraitée, je trouve. Puis les gens, ils veulent plus en manger, mais ils mangent du riz, des pâtes ou d'autres féculents.
Il y a autant de calories, là. Hein, il y a autant de calories, là.
Il y en a bien plus. Dans une tasse de riz, il y a beaucoup plus de calories que dans une pomme de terre. Fait qu'on est bien mieux que la pomme de terre parce que, en plus d'avoir moins de calories, on a plus de fibres, vitamine C, on a plus d'éléments nutritifs. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de la remettre au menu. C'est pas cher, comme d'autres aliments vedettes de saison. Le chou, là, il y a quelque chose de moins cher que le chou.
Oui.
Écoute, t'achètes un gros chou, ça te coûte à peu près rien. Tu peux faire de la soupe avec ça, tu peux faire des choux farcis, de la viande hachée, c'est pas cher non plus. Tout ce qui est navets, carottes, là, les légumes qui tu sais, on a mis ça un petit peu de côté pour tourner vers les choux de Bruxelles, les champignons, les asperges, qui sont des légumes plus chers, mais ça vaut la peine de retourner peut-être
On a peut-être lâché trop vite les légumes de nos parents, là, les carottes, navets et patates, dans le fond. Là.
Mmh. Ben oui, c'est ça. Puis l'hiver, c'est vraiment accessible. Puis l'été, qui est un autre truc de manger des légumes en saison, ben quand c'est l'abondance dans les marchés, puis que les tomates sont pas chères, que les poivrons sont pas chers, ben là, on se tourne plus vers ce type de légumes-là. Puis l'hiver, on prend des légumes racines qui sont moins chers et qui sont super nutritifs aussi.
Madame Huotte, qu'est-ce que vous pensez des produits bio? Ben, je sais qu'il y a toutes sortes d'écoles de pensée là-dessus. La perception qu'on a, qu'on retient comme consommateur, c'est que c'est supposé être meilleur, mais c'est plus cher. Puis on est même pas sûr que c'est meilleur.
Oui. Ben oui, c'est meilleur dans le sens où on ne sait pas l'accumulation de pesticides, d'herbicides à long terme, que ça, c'est un perturbateur du au niveau hormonal. Puis c'est sûr qu'à long terme, une accumulation excessive peut augmenter le risque de cancer. C'est mon opinion personnelle. Mais personnellement, je mange pas 100% bio, mais j'essaie de manger de plus en plus bio. Ça, c'est sûr. Plus on est à manger bio, moins plus ça va être accessible.
Ouais.
Le biologique, il y a moins de nitrates, puis il y a plus d'antioxydants dans les légumes biologiques. Ça, c'est prouvé par des études. C'est assez récent. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'études. Moi, c'est une perception personnelle que ça augmente le risque de cancer. On n'a pas d'études qui le prouvent parce que c'est trop... Logiquement, c'est trop difficile à dire, de dire, bon, toi, par exemple, tu prends des légumes d'agriculture traditionnelle, puis toi, Isabelle, tu manges bio, puis on vous suit pendant 30 ans, on regarde qui développe un cancer.
Il n'y a pas juste ça, on ingère tellement de choses dans une année ou dans...
Et
qu'est-ce que fait de la différence? C'est top, là.
Exactement. C'est pour ça que c'est complexe d'étudier ça.
Okay.
Mais qu'on utilise de moins en moins... Moi, je suis pour une agriculture où on utilise de moins en moins de substances chimiques. Donc, sans être... C'est sûr que ça prend un cahier des charges énorme pour porter l'appellation biologique. Puis c'est beaucoup de coûts pour l'entreprise. Donc, juste peut-être, par exemple, il y a des viandes maintenant qui sont élevées sans antibiotiques. Donc, il y a du porc, il y a du poulet maintenant qui sont offerts sur le marché, qui sont pas biologiques comme telles parce que ça coûte trop cher, mais qui sont d'élevage naturel, donc sans antibiotiques, ou encore du bœuf qui serait élevé sans hormones. Ben moi, ça, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction.
Et toi, est-ce que tu es de l'école de pensée qui explique par la nourriture puis par les hormones de croissance qu'on a donné allègrement aux animaux, aux poulets entre autres, le fait que d'à peu près toutes les générations montantes sont montantes aussi en grandeur? Moi, je vois pas d'autre explication que ça non plus.
Ben c'est ça, c'est une hypothèse, mais moi aussi j'ai
Est logique. On est d'accord, que c'est logique.
La puberté précoce également, bon, c'est une théorie là. Ce que je dis, c'est pas généralisé par l'ensemble des nutritionnistes. Mais la puberté précoce chez les filles, à 10 ans, 11 ans, qui ont des seins, écoute, ça a évolué. C'est vraiment, je pense que ce serait l'impact des résidus hormonaux qu'on peut retrouver dans la viande, puis l'influence de tous les additifs aussi qu'on a dans nos aliments qu'on n'avait pas avant.
Ouais.
La liste d'ingrédients des aliments, des fois, il y a 30 ingrédients dans quelque chose que tu feras à la maison, puis ça t'en prend 6. Ça, il y a un questionnement à se faire là-dessus.
Et beaucoup,
l'impact de tout ça.
Beaucoup pour la préservation. Ça, c'était peurant aussi.
Oui. Hein? Ben oui, pour la préservation, c'est ça. On veut qu'un aliment se conserve pendant 3 mois, alors que sa durée de vie normale, ce serait 2 semaines.
Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour ça. Et tant qu'être dans la question, sans être des mythes nécessairement, est-ce que les aliments allégés, c'est mieux ou c'est toujours, il y a toujours de quoi qui cache d'autres choses?
Ben moi je suis pour plus les aliments réguliers. C'est sûr que si on a un cholestérol élevé, de prendre du fromage allégé, c'est un bon choix. Puis le fromage, c'est à peu près le seul aliment que quand on l'allège, on n'ajoute pas d'autres choses.
On enlève du gras seulement, on enlève juste du gras. C'est ça?
On enlève juste du gras, puis on n'ajoute pas d'autres choses. C'est sûr que c'est moins onctueux, ça fond moins. Un mozzarella partiellement crémé, ça va moins bien fondre sur une pizza.
C'est sûr.
Ça, bon. Mais côté additif, on n'ajoute rien, donc ça, c'est bien. Par contre, souvent, la crème glacée allégée, le yogourt allégé, c'est allégé en gras, mais plus sucré et plus additif pour donner de la texture, parce que le gras donne de la texture. Fait que si on enlève le gras dans le yogourt pour remplacer la texture, on va ajouter toutes sortes de choses, bon, de la gélatine et d'autres agents de texturant qu'on appelle. Et ça, moi, j'aime mieux, moi, je prends du yogourt, là, à 3 ou 4% de gras. J'aime mieux un yogourt plus gras qui me satisfait plus. D'abord, c'est prouvé, on en mange moins. Les gens qui se tournent vers les yogourts allégés sont moins satisfaits, puis ils vont en prendre une plus grosse portion. On est peut-être mieux d'aller vers un yogourt qui est plus riche en gras. On a plus de plaisir à le manger, puis il y a moins d'additifs.
Dites-moi, parlez-moi quelques secondes de votre livre « Kilo cardio ».
Oui, « Kilo cardio », ben en fait, c'est un livre de perte de poids. Là. Il y avait un sondage la semaine dernière en collaboration avec le Journal de Montréal. On voyait, bon, il y a 47% des Québécois qui affichent un excès de poids. Donc, nous, « Kilo cardio », c'est un livre écrit en collaboration avec José Lavigueur et Guy Bourgeois, qui est motivateur, qui a perdu lui-même 75 livres. C'est un programme de 8 semaines qui est offert chez Énergie Cardio et qu'on offre maintenant au grand public. Donc, des menus, des recettes... Très simple à faire, les recettes. Vraiment, là, ça, c'est du 15 minutes là maximum, puis t'as ton souper qui est prêt, le nombre de calories est tout calculé. Donc tu suis des menus à 1200 calories pendant 8 semaines. Puis on a des pertes de poids spectaculaires avec ça parce qu'il y a le programme d'activité physique de José aussi et les conseils de motivation de Guy. Puis après, il y a un programme de maintien. Donc dès que tu as appris que tu as atteint ton poids, ben là, tu suis un programme de maintien que j'ai élaboré aussi. Puis on a vraiment des bons commentaires. C'est une méthode qui fonctionne, qui est saine. C'est pas un régime miracle. Hein? On revient toujours à cette loi mathématique de base. C'est que si on perd du poids, c'est qu'on mange moins de calories qu'on en dépense. Puis c'est un petit peu le calcul qu'on a fait avec les menus proposés. Et puis c'est pas sorcier, mais ça fonctionne.
J'ai l'impression que dans la nouvelle façon d'être et de vivre en 2009, une des choses qu'on oublie et qui est un apport calorique extraordinairement grand, c'est la boisson.
Ah oui, la
parce
boisson.
Parce que, tu sais, on n'en parle pas, mais moi, pour avoir jasé avec une nutritionniste, elle me disait, ben, cherche pas, tu manges relativement bien, mais tu prends 14 verres de vin, là, tu peux te...
ben c'est oui, vrai 14 qu'on... verres de vin, mais... c'est correct, mais pour la semaine.
Ben oui, je comprends, mais Isabelle, ce que je veux dire, c'est que dans l'équation, si on est honnête, juste aller à la SAQ le samedi pour comprendre qu'on n'a plus de place pour stationner, on boit plus, on boit mieux, on boit de... Puis de, c'est pas proscrit là, de prendre du vin.
Mais ben oui, c'est ça, mais il y a l'alcool, mais il y a tout, les... c'est drôle, j'ai après écrire un article là-dessus, mais les calories liquides.
Ben oui.
Les calories.
Les jus, c'est hallucinant pour les parents avec les enfants. Des bons petits jus de fruits, là.
Le jus, là, ça devrait pas être plus qu'une tasse par jour parce que les calories liquides ne soutiennent pas comme les calories que l'on mange.
Ouais.
Donc, moi, j'invite les gens à écrire un journal alimentaire, ce qu'ils peuvent boire dans une journée. T'sais, un mochaccino, c'est 500 calories. Du jus, c'est quand même 120 calories par tasse. Le verre de vin, c'est 110 calories. La bière, c'est 140 calories. Juste cumuler tout ça, puis si on se rend compte, des fois, coudonc, j'ai pris 1000 calories liquides dans ma journée, mais c'est beaucoup trop parce que ces calories-là vont pas me soutenir et vont pas faire en sorte que je vais manger moins dans ma journée. Même l'alcool stimule l'appétit. Alors, quand je prends un apéro, je mange davantage. Fait que c'est des calories qui s'ajoutent aux calories de l'alcool comme tel.
Donc, une soirée entre amis à prendre un verre, finir ça avec une grosse poutine chez Ashton, on est dans le trouble.
Là, ça ressemble à 2000 calories. Fait qu'à peu près toutes les calories de la journée en un seul souper, là. 1500 pour la poutine, puis le reste pour le vin ou la bière, là.
Une petite... Et que ça fait mal d'entendre ça pareil, hein. On va pas l'entendre, mais faut y croire pareil. Juste une dernière question. Je vais pas abuser de ton temps, Isabelle, mais les fameux Red Bull, toutes ces histoires-là de drink énergétique, il y a deux aspects. Il y a l'aspect calorie, mais il y a l'aspect aussi... aujourd'hui, les jeunes me font peur parce que c'est rendu dans tous les drinks, toutes les spéciaux de drinks, on en met partout.
Ben non, c'est ça. Puis il faut surtout pas marier ça à l'alcool. On conseille maximum 2 canettes et les petites canettes, parce que maintenant, il y en a des grosses de 590 millilitres et les petites de 250 ml, 2 maximum par jour, et ça, c'est pour les gens de 12 ans et plus, parce qu'en bas de 12 ans, la tolérance à la caféine, elle est beaucoup moindre.
Je trouve ça même
là,
beaucoup, moi, Isabelle.
Il faudrait pas dépasser une canette.
Tu me surprends même. Je pensais que tu allais dire 2 par semaine.
C'est pas... Ah oui, mais ça, je conseille. C'est pas je recommande pas
non,
ça.
Non, je comprends.
Je pense qu'on peut aller dans les aliments puiser l'énergie plutôt que les boissons énergétiques. Mais les grands consommateurs, là, dans une soirée, par exemple, les jeunes sortent puis ils prennent ça donne de l'énergie. Ben, un, de grâce, ne pas marier à l'alcool. Et puis deux, si t'en prends dans une soirée, c'est pas plus que 2, mais c'est sûr qu'idéalement, moi, j'aimerais mieux que ça existe pas, ce type de boisson-là. Maintenant, il y a des gommes à mâcher qui sont sorties avec même chose du guarana, qui est un stimulant, plus des vitamines à l'intérieur. Et sur le paquet de gomme, on dit mâcher 2 gommes, qui est l'équivalent de 100 mg de caféine, l'équivalent d'un café aux 3 heures. Donc là, on invite les jeunes à dire qu'il faut que tu crées une dépendance carrément à la caféine, à quelqu'un qui n'est pas habitué de boire de café. Puis tu dis aux 3 heures, il faut que tu aies une dose de 100 mg de caféine.
Ben voyons donc.
Ça, c'est ridicule. Ça devrait être défendu. Il y a 2 gommes comme ça qui ont été lancées sur le marché.
Et tu me l'apprends, Isabelle. Je savais pas. Tu m'apprends ça qu'il y avait de la gomme à la caféine, littéralement.
Oui, gomme à la caféine.
Seigneur.
C'est complètement ridicule. Les boissons, c'est la même chose. On parle des enfants de 12 ans, mais moi, je pense que ça devrait être défendu au moins de 18 ans, ce type de boisson-là.
Ben, ça fait pomper le cœur, ça en prend 2-3 en ligne. Là.
Ben oui, ça a de l'arythmie. Il y a eu en Finlande des gens qui sont morts d'arythmie cardiaque parce qu'ils avaient pris trop de boissons énergétiques qui étaient très concentrées en caféine.
Encore une fois, l'équilibre.
Hein? Quand tu prends ça avec l'alcool, tu as l'impression que l'alcool ne fait pas d'effet, donc que tu peux conduire, que tu es correct, et puis il y a beaucoup plus d'accidents de la route avec l'effet des deux.
Dans le fond, autant pour la nourriture que pour la boisson que pour n'importe quoi, c'est l'équilibre. C'est oui. juste ça, hein. Il n'y a pas grand-chose de mauvais dans tout ça, mais l'accumulation ou l'exagération. Caroline, on n'a
exactement.
Pas le choix, faut être discipliné. Merci, Isabelle.
Ben, merci beaucoup.
Hey,
à
bonne
bientôt.
Année. Bonne année 2009.
Bye, bonne année, merci.
Isabelle Huot est docteur en nutrition.
C'est l'événement là.